Alors voilà, on va parler avec toi aujourd'hui du voile, donc de ce fameux bout de tissu qui pose beaucoup de questions aujourd'hui dans les médias, dans les réseaux sociaux et finalement peut-être aussi dans les discussions en général, en partant peut-être d'un premier événement qui est ce fameux hijab de running qui a été lancé par Decathlon. Donc déjà, en première question, qu'est-ce que tu as pensé de ce hijab de running, le fait que Decathlon sorte un outil spécial?
Pas grand-chose, en ce sens que d'emblée, les gens pourraient trouver ça positif, en tout cas les gens étant de la communauté musulmane, comme une éventuelle avancée, ce qui visiblement n'a pas été le cas après dans le débat public. Mais pas plus que. Je n'ai pas été plus intriguée que ça, puisqu'il est disponible, enfin ce genre d'outil est disponible partout sur Internet et qu'il était déjà à la disposition en soi des femmes de la communauté musulmane qui décident de se couvrir les cheveux. Donc j'étais pas plus surprise que ça. Par contre, je me doutais bien que ça allait faire un tollé, ça. Voilà.
Et justement, quand on voit ce tollé, comment est-ce que toi, en tant que femme qui porte le voile, comment tu vois ça? Donc c'était quand même des... Les gens étaient indignés, déjà on se demande pourquoi, mais alors comment est-ce qu'on le vit?
Moi personnellement, de la lassitude, l'indignation et de la lassitude. Après, je n'ai pas. J'essaye de prendre de la distance par rapport à tous les débats qui sont autour de ce sujet-là. Donc toutes les polémiques qui tournent là-dessus, mais même d'autres polémiques. En fait, je trouve que c'est très anxiogène, en fait. Et donc, je trouve qu'au final, on est quand même face à une certaine violence psychologique et un petit harcèlement quand même derrière tout ça. Et ça me perturbe toujours de voir comment on incrimine la femme qui décide de se couvrir les cheveux. Et en même temps, on la rend victime. Donc c'est un peu compliqué de porter deux étiquettes à la fois, qui sont un contresens complet, puisque on ne peut pas être victime et en même temps criminelle de quelque chose. Et puis c'est tellement liberticide que ça me pose problème au niveau de l'argument féministe qui est caché, enfin qui est présenté derrière et qui, pour moi, est pas logique du tout.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'insurgent contre le voile, parce que c'est un outil de domination, souvent donc des pères ou des maris sur la femme. Toi, tu as décidé de le porter?
Oui, ben moi, évidemment, j'ai décidé à plus forte raison que, comme je m'appelle Claire, on se doute bien que je ne fais pas partie d'une famille qui est à la base musulmane. Donc là aussi, ça aurait pu être un combat. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents athées et laïcs et qui vivent leur laïcité de manière sérieuse. Ça veut dire, pour ma lecture à moi, qui estime qu'on a le droit de disposer de sa liberté de conscience, mais aussi de sa liberté de disposer de son corps, comme on l'entend. Alors bien évidemment qu'au début, ça peut être interpellant, ça peut être un petit peu stressant pour le parent, mais ça peut l'être aussi pour le parent qui est d'origine musulmane et qui est musulman, même pratiquant, parce que je connais des jeunes femmes qui ont décidé de le porter et dont les parents n'étaient pas très, très en accord avec ce choix-là, puisqu'ils avaient peur justement des répercussions que la société allait faire subir à leurs enfants, qui étaient parfois fort jeunes dans cette prise de décision. Après, pour ce qui est de l'ordre de la soumission, c'est complètement interprétatif. Donc ça veut dire que, bien évidemment, je suis sûre qu'il y a des femmes qui subissent une certaine soumission, mais faut être honnête, c'est plutôt plus souvent, en tout cas, je parle bien évidemment de la société belge, je ne déporte pas le sujet, mais c'est quand même beaucoup de femmes qui décident de le porter. Et donc, on se retrouve quand même dans une discussion autour d'un vêtement qui est genré, sauf que la jupe est un vêtement genré, tous les magasins de la rue Neuve sont décomposés de manière genrée. Et donc, le fait qu'un vêtement soit genré n'amène pas nécessairement à une soumission quelconque cachée derrière le sujet. L'important, c'est le choix. Et malheureusement, c'est que même quand une femme affirme avoir fait ce choix, elle va être d'office considérée comme une personne aliénée. Elle ne peut, même dans ce cas-là, il y a un paternalisme qui l'étouffe en disant non, mais même quand vous dites que vous prétendez avoir fait ce choix, vous êtes quand même dans une démarche d'aliénée. En fait, vous ne pouvez pas avoir choisi ça librement. C'est pas ma perception du féminisme. Pour moi, le féminisme est inclusif. Il donne le droit à toute femme de disposer de son corps comme elle l'entend, que ce soit pour le couvrir ou le découvrir en public comme en privé.
Oui, parce que voilà, c'est ça, c'est souvent les féministes aussi qui, au nom du combat féministe, je suis féministe moi-même, hein, mais voilà, il y a plein
Moi
de formes de
aussi.
féminisme, voilà, qui au nom du féminisme disent, voilà, c'est porter le voile, c'est contre l'émancipation de la femme. Tu as un autre discours à ce niveau-là?
Oui, parce que j'ai cette perception que le féminisme dont on parle là, qui est le plus courant, en tout cas sur les plateaux télé ou les radios, etc., donc celui qui est présenté à tout le monde, en tout cas en Occident, en tout cas en francophonie occidentale, c'est que pour être une femme, il faut être comme on a décidé qu'elle soit dans l'Europe actuelle, avec une certaine lecture de la spiritualité ou pas, de la sexualité ou pas. Et donc, elle doit être dans ce carcan-là. Si elle décide de faire quelque chose qu'on attribuait dans notre société à l'époque comme étant une soumission, qui pouvait l'être, hein, tout à fait, mais qui était interprétatif, parce qu'il faut savoir que nos arrière-grand-mères aussi portaient le foulard bien, bien souvent, alors peut-être pas de la même manière, mais on rentrait pas dans une église sans être couvert, enfin couverte en l'occurrence. Et donc, à un moment donné, on se retrouve quand même dans un débat qui, moi, me chiffonne, parce que je ne comprends pas comment on peut prétendre vouloir aider quelqu'un à être libre tout en lui disant « Non, tu n'as pas le droit de faire ce que moi, j'estime ne pas être une liberté. » Ça, c'est compliqué quand même de dire à quelqu'un, de reprocher en même temps à ce soi-disant, cet hypothétique père qui peuvent exister, un hein, père ou frère ou mari musulman qui voudrait soumettre sa femme à couvrir ses cheveux et en même temps lui dire derrière « Mais moi, j'estime que tu dois les découvrir. » Mais c'est exactement la même dynamique, en fait. C'est le même procédé. On est dans la même dynamique de vouloir dire à la femme ce qu'elle doit faire. Et moi, mon féminisme, c'est pas celui-là. Et c'est ce que certaines tendances féministes actuelles, qui sont plutôt inclusives, donc qui estiment que la liberté, elle est à tous, elle n'est pas ethnocentrée, elle ne se limite pas à un athéisme ou à une spiritualité spécifique. Moi, c'est vraiment la lecture que moi j'ai. Et donc, ça me déroge d'autant plus d'entendre que c'est au nom de la liberté des femmes qu'on va venir de manière complètement paternaliste leur dire « Vous devez faire comme ça et pas autrement. » Parce que c'est ça être une femme et c'est ça être libre.
Voilà, donc, est-ce qu'il existe, alors, du coup, donc on a dit, hein, il existe plusieurs féminismes. Est-ce que on pourrait dire qu'il existe un féminisme musulman ou islamique ?
Je pense que dans ça.
Ou c'est idiot ?
Non, mais je sais que c'est un sujet qui est fort abordé. Moi, j'ai déjà eu quelques lectures là-dessus. En ce sens que dans les pays à majorité musulmane, donc évidemment on ne parle pas du tout de la Belgique, il y a des groupes de femmes qui tentent à donner des lectures des textes religieux, donc là on parle vraiment de la religiosité, on ne parle pas du côté social, qui tentent de donner des lectures moins patriarcales à certains textes, parce que bien évidemment il y a des lectures patriarcales de certains textes, on ne va pas le nier, on ne va pas nier qu'il y a plein de pays à majorité dites musulmanes qui font subir le patriarcat aux femmes. D'ailleurs, le sujet de l'Iran est le sujet qui revient, et moi qui m'horripile parce que je trouve ça tellement un contresens de nouveau. Moi, j'ai une amie actuellement qui fait le tour du monde à vélo et qui est profondément féministe, qui vient de passer plusieurs semaines en Iran. Et en discutant, on se rend compte qu'en fait, le combat de fond, parce que dans la forme, c'est pas du tout la même chose, mais dans la dynamique, c'est le même combat. Certaines femmes, et un grand nombre, se battent pour avoir le choix de le mettre ou de ne pas le mettre, mais surtout de le retirer pour celles qui ne veulent pas le porter en Iran.
Parce que là, c'est un peu juste obligatoire, puisqu'il y a la police... je ne sais plus comment elle s'appelle, cette police.
La police de la moralité. Ouais, c'est comme ça que mon amie, en tout cas, parce qu'elle a justement été contrôlée par cette... parce que mon amie, en l'occurrence, n'est pas musulmane, hein, je le précise. Et donc, elle fait du vélo, mais faire du vélo couverte, etc., par 42, de temps, enfin, voilà, 40 degrés, c'est un peu compliqué. Elle a été contrôlée par cette fameuse police de la moralité. Oui, on est dans un truc qui a complètement été légiféré, on est dans une théocratie en Iran, donc c'est pour ça déjà que je ne comprends pas pourquoi on déporte le sujet, puisque on parle de la Belgique ou de la France, on n'est pas du tout dans la même dynamique. En Iran, si une femme décide de ne pas le porter et donc de se mettre toute sa famille à dos, elle va se retrouver dans des difficultés incroyables financières, techniques, parce qu'en plus elles n'ont pas le droit d'avoir leur passeport, etc. Je veux dire, en Belgique, si une femme décide de ne pas porter, de se rebeller, entre guillemets, contre toute une famille tyrannique qui l'obligerait, cette personne va quand même... Je ne dis pas que ça ne va pas être difficile psychologiquement et émotionnellement, mais elle va quand même avoir accès à plein de choses. Mmh. Elle va avoir accès éventuellement au CPS, à des foyers d'accueil pour femmes isolées, etc. Donc, c'est toute une autre dimension. Et surtout, c'est le même sujet de fond. Des gens veulent imposer à quelqu'un de faire quelque chose avec son corps. Est-ce qu'on doit faire comme ceci ou comme cela ? Et c'est pour ça que j'ai entendu dans les débats, parce que j'en ai quand même écouté un ou deux, je ne citerai pas la personne, parce qu'en plus je ne me rappelle même plus de son nom, et c'est tant mieux pour moi, mais qui disait « c'est scandaleux, en Iran, des femmes se battent pour pouvoir, se battent presque de leur vie pour pouvoir retirer ce foulard, et ici des gens veulent revendiquer le droit de le mettre. » Mais c'est le même combat, en fait, c'est alors bien évidemment à une différente échelle, mais on a le droit de faire ce qu'on veut avec son corps, et c'est ça qu'on demande, c'est pas autre chose. Si une femme n'a pas pris le choix de le porter et que vous la connaissez, mais aidez-la. Mais si elle a décidé, laissez-la.
Oui, c'est ça, c'est un côté très paternaliste de vouloir. Alors peut-être que, je ne sais pas si tu connais Betty Mahmoudi. C'était un livre qui est paru dans la fin des années 80, qui s'appelait Jamais sans ma fille. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on a commencé à parler du foulard, parce que c'était donc une Américaine qui s'est mariée avec un Iranien, justement. Ils vont en Iran en vacances et en fait, elle se fait séquestrer, obligation du foulard. Mon avis, c'est parti de là aussi, où quand une femme disait, voilà, maintenant je veux porter le voile, il y a tout le monde qui essayait de la dissuader de porter le voile, qu'elle allait finir au Maroc, en Algérie, en Iran, enfermée dans une maison. C'est des choses que toi, tu as connues aussi?
Mais en fait, donc moi, de manière personnelle, je ne connais personne qui a été forcé à le porter. Maintenant, je suis intimement persuadée qu'il en existe et qu'il en existe sûrement beaucoup, mais je ne pense pas du tout que ce soit la majorité. On est tous
En
confrontés.
Belgique, en tout cas.
Ah oui, bien entendu, en Belgique, oui. Là, je parle toujours de mon angle de vue, évidemment. Mais on est tous confrontés, à plus forte raison ou pas, dans chaque pays, à des problématiques familiales et culturelles. Un patriarcat plus ou moins marqué sur différentes thématiques, parce que le patriarcat, il est aussi chez nous, on va pas le nier, à différents degrés, bien évidemment. Mais les problèmes, la différence entre le choix du foulard en Belgique et les problématiques d'obligation mises dans d'autres circonstances, pour moi, c'est pas le même débat. Ça veut dire que, bien évidemment, il y a des gens qui sont tyranniques avec leur famille, mais je pense qu'il faut être logique, parce que pour moi, c'est un argumentaire qui tient pas la route en Belgique. De dire, si j'empêche la personne de faire du sport, d'aller à l'école, de trouver un emploi, de trouver un stage pour avoir son diplôme de fin d'année, parce qu'on peut aller à l'université avec son foulard, mais pour trouver le stage quand on doit en faire un, c'est tout autre chose, si on en a un. Et toutes ces thématiques-là, d'aller à la piscine avec ses enfants, de pouvoir sortir avec ses enfants en sortie scolaire, etc., ça ne peut pas aider quelqu'un qui se trouve face à une personne tyrannique. Ça veut dire qu'une femme qui est dans une certaine... Parce qu'il n'y a pas que cette tyrannie-là, hein, on ne va pas se cacher. Il y a des PDG qui tabassent leurs femmes, comme il y a des hommes musulmans qui tabassent certainement leurs femmes aussi. Là n'est pas le sujet. Mais une femme, l'empêcher d'avoir des droits ne va jamais l'aider à trouver une solution. Ça veut dire que partons sur le postulat d'une personne dont le père force à porter le foulard de manière complètement tyrannique et bien organisée dans toute la famille. Si cette personne-là maintenant n'a pas accès à l'école parce qu'on ne peut pas aller, et vous pensez vraiment que quelqu'un de tyrannique va dire à son enfant, c'est pas grave, enlève-le, vas-y? Non. Alors bien évidemment, il y a l'obligation
Scolaire
scolaire.
jusqu'à 18 ans.
Voilà, celle-là. Mais si c'est au-delà, parce qu'à un moment donné, ça a été débattu aussi au niveau des universités ou des hautes écoles, il y a des hautes écoles où on ne peut pas le porter, ou des études supérieures où on ne peut pas le porter. Maintenant, la personne, ce qui va tomber comme information, si on est vraiment face à un tyran familial, c'est tu ne le portes pas, tu n'y vas pas. Et puis, même si tu as ton diplôme, est-ce que tu vas trouver un emploi en le gardant? Et donc, on est de toute façon en train de demander aux gens de ne pas faire des replis identitaires alors qu'on les force à faire un repli identitaire. C'est comme dire à une personne, mais voilà, fais un pas vers moi. Mais non, j'ai les deux pieds liés, tu m'as mis des chaînes, c'est pas possible. Mais si, fais un pas vers moi. Mais non, je ne peux pas. Mais si, coupe-toi les pieds. Mais en fait, non, ça fait partie de notre identité. Ça veut dire qu'on a vraiment fait ce choix de cette forme de pudeur-là. Et cette forme de pudeur-là, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie de s'en défaire et qui sont lésées socialement parlant. Parce qu'en fait, parfois, elles ont des diplômes, mais impressionnants. Elles ne peuvent pas avoir accès à leurs fonctions parce qu'elles décident de couvrir leurs cheveux. Et ça, c'est compliqué.
Alors, il y a Zakia Katabi, je vais y arriver, donc au niveau de Bruxelles, qui a dit que, enfin, qui a dit, c'est pas elle, il y a un accord de gouvernement qui permettrait dans des écoles supérieures à Bruxelles de porter le voile. Et elle parle de mesures d'émancipation. Ça rejoint, parce que d'un côté, on a l'impression, du coup, enfin, on parle justement de ce voile qui serait un outil de domination et donc de soumission. Elle parle d'émancipation, il n'y a pas tout le monde qui la comprend, en fait, c'est ce que tu viens d'expliquer, en fait.
Oui, ben c'est
Ça
parce que...
permettrait en fait à ces filles
Voilà.
d'aller à l'école.
Oui, parce que si on estime, et je suis sûre qu'il y en a même en Belgique, hein, mais elles sont pour moi minoritaires, mais bon, on ne fait pas des statistiques sur ce sujet, c'est un peu compliqué. Mais ça permettrait à ces personnes qu'on essaye soi-disant de défendre, parce qu'au final, c'est l'argumentaire de base de la personne qui défend l'interdiction du port du voile dans l'espace public, c'est de dire, mais voilà, on va aider toutes ces personnes qui sont confrontées à la soumission patriarcale de leur famille. Ok, mais si vous voulez vraiment les aider, donnez-leur les outils pour pouvoir sortir de cette tyrannie familiale si elles y sont soumises. Et les outils, c'est l'éducation, c'est la scolarité, c'est l'emploi, donc l'argent, et donc pouvoir s'acheter un appartement ou ne serait-ce que louer un appartement et pouvoir prendre sa réelle émancipation, entre guillemets.
Mais même pour les femmes qui ont fait le choix du voile, c'est aussi un outil, mais alors d'émancipation par rapport peut-être à la société, parce que quand on décide de porter le voile, est-ce qu'on s'interdit certaines choses qu'on pourrait faire?
Mais je pense qu'on doit faire des compromis tout le temps Alors, certaines personnes ont soit le caractère, soit le contexte pour se dire, OK, ce compromis-là, je ne le fais pas. Moi, pour ma part, je dois le retirer au travail. Je travaille pour une commune enfin, parmi les communes de Bruxelles. Et puisque je suis en contact avec du public, je suis obligée de retirer mon foulard. Alors, à la différence d'autres personnes, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler, je ne le portais pas. Je l'ai porté quelques mois plus tard. Mais c'est vrai que ce contexte-là fait que, ben, il y a clairement des moments où je me pose la question de savoir mais pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de garder mon foulard parce que j'estime, et c'est ce que je dis parfois, que mon degré de neutralité, c'est une question de comportement, c'est absolument pas une question d'accoutrement. Et donc le fait que je puisse, moi, traiter quelqu'un correctement, ce n'est pas par le biais de ce que je vais porter sur les cheveux. Alors bien évidemment, la personne qui est devant moi va comprendre mon appartenance religieuse. Mais en même temps, même si je n'étais pas comme je suis, à l'heure actuelle, quand j'accueille quelqu'un, la personne qui est devant moi m'attribue une certaine. Alors, la personne me voit blanche, aux yeux clairs, aux cheveux clairs, dévoilée. Et donc, la personne ne m'a jamais m'associée à la religion musulmane. Alors, vous allez dire, ah, c'est peut-être super, mais du coup, il y a aussi une certaine façon. Donc, par exemple, nous, on est confrontés à une grande population musulmane aussi dans la commune où je travaille. Et bien, la manière dont ils m'abordent est complètement différente que mes collègues qui ne sont pas voilés non plus, mais qui vont s'appeler Asia, Karima ou autres. Là, clairement, on est tous. Notre identité, elle est marquée sur notre visage, elle est marquée dans notre façon de nous habiller, elle est marquée dans plein de choses. Vous pouvez être tout à fait clair de peau, paraître blanc, bleu, belge, comme on dit, et être profondément inéquitable par rapport à l'accueil des personnes, puisque vous pouvez être profondément raciste, avoir un mépris profond pour les personnes noires, et accueillir des gens et les mépriser du début jusqu'à la fin. Et puis vous pouvez aussi être dans l'autre cas, hein. Vous pouvez être voilée et être discriminante, c'est pas ça le sujet. Mais en tout cas, c'est pas ceci. Donc pour moi, clairement, ça amène à des situations où les gens se privent. Moi, c'est parce que j'ai fait ce compromis-là que je n'assume pas toujours, mais que j'ai fait, en tout cas que je regrette parfois. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ce compromis parce qu'elles n'ont pas envie de se détacher d'une part de leur identité. Et elles sont obligées, et donc elles ont parfois des diplômes géniaux, et elles peuvent pas les mettre en pratique, et elles peuvent pas être utiles à la société. Elles sont obligées au final de rester chez elles, alors que c'est justement le cliché qu'on essaye de défendre, ce cliché de la femme fait enfermée chez elle. Oui, mais en fait, on lui donne pas les outils. Donc, si vraiment son mari ou son père ou quoi est tyrannique, mais vous lui donnez, enfin, la personne qui est contre le port du foulard dans ces espaces-là, lui donne les outils pour continuer à être tyrannique.
Tout ça au nom d'une neutralité qui est juste une neutralité d'apparence, finalement.
Oui, mais bien évidemment, parce que, bien entendu, la personne, je dis, que je reçois, qui me reçoit, mais dans les deux sens. Ça veut dire que même dans le cas public, on est tous confrontés à attribuer des étiquettes aux gens qu'on rencontre d'office. Mais c'est limite le premier sentiment qu'on a quand on rencontre quelqu'un, c'est de vouloir la positionner positivement ou négativement, mais dans une case. Mais ça ne va pas créer la neutralité de comportement. Et cette neutralité de comportement, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et en plus, pour moi, ça fait partie de ma religion, d'être clairement dans cette justice-là, face à quelqu'un qui fasse partie de ma communauté religieuse ou pas. Mais évidemment, d'apparence, moi, sans mon foulard, je fais partie de la communauté dite non-croyante, en tout cas blanc-bleu-belge, et certainement pas musulmane d'apparence.
Voilà, c'est parce qu'on en discutait juste avant de lancer l'enregistrement, par exemple. Une professeure de sciences voilée qui va donner un cours sur la théorie de l'évolution, voilà, parfois ça peut, moi, voilà, je disais clairement, moi, j'aurais quand même un certain a priori parce que justement, il y a une série de stéréotypes. Parce que justement, là, on se dit, la personne n'est pas neutre par rapport à ce qu'elle va donner.
Non, bien évidemment, mais est-ce qu'une autre personne qui ne porterait pas le foulard serait neutre? C'est ça la question. Ça veut dire qu'on a tous nos mêmes lectures. Bien évidemment, on a plus tendance sur la théorie de l'évolution à se dire, OK, quelqu'un de croyant, catholique,
Oui, bien
musulman ou
sûr.
juif, va forcément. Mais on ne se poserait pas la question si la personne n'avait pas le foulard et qu'on savait qu'elle était d'origine juive et pratiquante, en fait. C'est ça qui est assez
Oui.
intriguant. C'est toute une série de fantasmes et de craintes, mais c'est ce que je disais plus tôt aussi dans notre discussion précédente, c'est que on est dans une situation, en tout cas, de crise. De pas d'énormes crises, mais quand même de crises, que ce soit sur le plan écologique, là par contre elle est énorme, mais sur d'autres plans. Et donc, Les temps de crise, il y a toujours ce fameux procédé du bouc émissaire. Alors, je ne dirais pas que la femme musulmane est la seule bouc émissaire du débat, mais en tout cas, elle l'est très souvent. Le bouc émissaire, il sert à une chose, c'est cristalliser toutes les peurs, toutes les craintes, etc. Fédérer les gens autour d'un ennemi commun, entre guillemets, ennemi commun. Je ne veux pas diaboliser le débat, mais bon, c'est quand même assez violent actuellement, en tout cas, sur le plan des mots. Et donc, à partir de ce moment-là, mais ça permet aussi aux gens d'extérioriser et d'exorciser toute leur peur, tout leur stress, toute leur frustration, mais des peurs qui n'ont parfois, mais strictement rien à voir, comme on disait plus tôt, la peur de ne pas supporter son travail pénible jusqu'à 65 ou 67 ans, de ne pas pour eux, puisque ça augmente de plus en plus, hein, de ne pas pouvoir avoir une pension convenable pour faire ses vieux jours, etc. Et donc, toutes ces craintes au quotidien, elles sont cristallisées sur autre chose, et puis c'est une belle manière aussi de distraire le peuple des vrais soucis de base. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux aussi.